présence de France Culture au Festival d'Avignon, qui est une vieille tradition, mais sur la foi d'une dépêche AFP, je me suis laissé dire que France Culture se désengageait quelque peu du festival cette année. Est-ce que vous confirmez ?
Je confirme que France Culture aurait aimé être beaucoup plus présent à Avignon et que force est de constater que ni le Festival d'Avignon ni la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon ne nous ont autorisé à exister. Cependant, Bernard Fèvre d'Arcy, à qui j'avais fait la demande dès septembre-octobre, m'a dit que, comme l'année dernière, qu'il n'avait pas de lieu à mettre à la disposition de France Culture et m'a proposé de retourner vers la Chartreuse, comme cela avait été le cas l'année dernière. Effectivement, l'année dernière, la même demande de France Culture avait été faite au Festival d'Avignon et Bernard m'avait dit « essaye la Chartreuse ». Avec la Chartreuse, ça avait été compliqué. Nous avons finalement obtenu un accord pour essayer de faire nos mises en espace et nos concerts au Tinel de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Je crois que cela a rencontré le public et la qualité à la fois des metteurs en scène, des comédiens et des textes de commandes inédites faites par France Culture à cette occasion ont permis, je crois, à de nombreux spectateurs de confirmer que les écritures contemporaines se portaient extrêmement bien. Mais la Chartreuse ne nous a proposé que la dernière semaine du Festival d'Avignon, c'est-à-dire la dernière semaine de juillet. Nous ne pouvions pas, à la fois pour des raisons techniques, parce que Radio France est très engagée du côté du Festival de Radio France Montpellier, on ne peut pas mettre des équipes techniques sur tous les endroits à la fois, et d'autre part, parce que la dernière semaine, vous qui êtes des spectateurs professionnels au fil des ans, vous savez que la dernière semaine du Festival d'Avignon est une semaine beaucoup moins intéressante pour nos auditeurs, qui sont aussi des spectateurs de théâtre. Donc nous sommes à Avignon uniquement par l'opiniâtreté de nos équipes, par le désir très fort de France Culture, et nous avons demandé, parce qu'effectivement il y avait des lieux à louer, mais très très chers, nous sommes un service public, nous n'allons pas dépenser de l'argent pour faire notre métier, je trouve que ça serait scandaleux. Donc il y avait des lieux à louer très chers, nous n'avons pas les moyens de le faire, mais nous avons le désir de faire entendre notre travail tout au long de l'année. Et donc je remercie infiniment l'École des Beaux-Arts de nous accueillir, évidemment gratuitement, pour pouvoir faire nos mises en espace, notre journée d'écriture contemporaine, qui va être mise en espace par Thierry Desperetti qui est à ma droite. On va parler de ce travail qui nous a pris des mois et qui nous a fortement intéressés, et qui est notre manière à nous, dans le Festival d'Avignon, de montrer que les écritures contemporaines sont une source de revisitation du théâtre et que le théâtre patrimonial, c'est bien beau, mais que si, comme nous l'avons constaté dans ce jury, nous avons lu de très nombreux textes et nous avons vu que la force des récits, l'engagement des écrivains de théâtre, l'engagement politique, la manière dont ces écrivains de théâtre contemporain prennent à bras-le-corps le théâtre pour dire la détresse, l'exil, le tourment, pour nous dire des choses sur le monde d'aujourd'hui, eh bien, nous ont prouvé à quel point il fallait que France Culture fasse retentir ici à Avignon ce travail que nous donnons tout au long de l'année. Et puis, nous initions pour la première fois un cycle qui, je l'espère, va durer très très longtemps. Nous avons pensé que là aussi, par rapport aux écritures contemporaines, qui sont l'axe essentiel tout au long de l'année du travail de France Culture dans la fiction, nous avons pensé qu'il y avait un hommage à rendre une fois par an à un metteur en scène européen qui a pour tâche depuis longtemps de rendre attirant et séduisant des écritures contemporaines. Donc nous avons initié ce premier cycle qui aura lieu donc vendredi.
Le 13.
Voilà, vendredi. Toujours à l'École des Beaux-Arts qui est samedi, Claude Régis, et vendredi les écritures contemporaines. Toujours à l'École des Beaux-Arts qui nous accueille. Et nous initions ce cycle avec Claude Régis, et à qui nous avons confié une carte blanche et qui fera venir, paradoxalement, évidemment des comédiens et des metteurs en scène et des auteurs. Mais la carte blanche a été très intéressante à préparer avec lui, parce que il s'agit non pas d'une interview, mais il s'agit d'une journée où un metteur en scène aussi prestigieux que Claude Régis viendra devant des spectateurs expliquer ce qui irrigue son imaginaire, ce qui le fait travailler, la nuit ou le jour, dans le rêve ou dans le conscient, ce qui, pour lui, définit même son rapport au théâtre. Et d'ailleurs, deux des plus grands scientifiques français acceptent de faire le voyage pour Avignon. Il s'agit de Amselem et de Luminet, parce que une des orientations les plus fortes du travail de Claude Régis, et vous êtes nombreux, je pense, aujourd'hui à avoir déjà été voir des spectacles de Claude Régis, eh bien, c'est le rapport avec la lumière. C'est la résonance intérieure entre le texte, la lumière et le rapport entre le spectateur et l'acteur. Et ce qui le fait travailler en son fort intérieur, c'est plus la science que le théâtre.
Alors on va revenir un petit peu en détail sur ces deux journées. Je reviens juste sur la première question du désengagement. Est-ce que c'est un désengagement ponctuel cette
année ? Attendez, c'est pas un désengagement. Quand on frappe aux portes et qu'on dit...
Ou est-ce que c'est définitif ?
Ben attendez, j'adorerais que Bernard Fèvre d'Arcier ou Daniel Girard me disent on vous offre un lieu. Je veux dire, j'ai passé mon temps pendant des mois à leur demander des lieux. Vous me dites des engagements. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux violer les gens, je peux frapper au... Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je leur ai demandé, ils m'ont dit non. J'ai trouvé un lieu qui est l'École des Beaux-Arts, qui est un lieu public et où les équipes techniques de Radio France, j'ai inventé des concepts. Nous n'avons jamais été aussi présents, France Culture, que cette année. Nous avons des équipes de producteurs qui n'ont jamais été aussi présentes, des espaces de programme qui n'ont jamais été aussi présents. 4 samedis de suite, Joël Gaillot couvre le off, Lucien Atoum couvre l'actualité du festival, Arnaud Laporte couvre tout le théâtre étranger. Nous enregistrons France Culture, le Quatuor d'Alexandrie, en son intégralité, et nous diffusons une émission exceptionnelle autour de Laurence Durel. Nous avons inventé un nouveau concept il y a 8 jours avec le théâtre de l'hôtel de la Mirande et nous allons rendre un hommage à René Char. Vous me dites des engagements, je peux pas accepter ce terme. Nous avons tout fait pour être plus engagés. Nous continuons à exister, vaille que vaille, avec nos propres concepts, nos propres équipes. Mais je ne peux pas accepter ce terme de désengagement.
La question étant, est-ce que l'année prochaine, vous essaierez de retrouver un autre lieu?
Ah bah, si on me le donne, je serais ravie. Si on me le donne, je serais ravie, mais ça fait 2 ans que je le demande et qu'on ne me le donne pas.
Alors donc, on va parler un petit peu précisément de ces deux journées. Le 12, une journée des écritures contemporaines avec...
Jean-Michel vient d'arriver.
Jean-Michel vient d'arriver, bonjour Jean-Michel Ribes. Donc une journée des écritures contemporaines le 12 qui consiste en une mise en espace de textes contemporains qui vous a été confié, Thierry Peretti. Comment va se dérouler cette journée? Comment vont s'articuler les textes des auteurs que vous avez choisis?
Alors il y a quatre ou cinq textes contemporains, deux grosses pièces qui sont à la fois très large et très ambitieuse, qui sont le Mouton et la Baleine d'Ahmed Ghazali et À chacun ses cendres d'Alison Svoboda. Ça sera entrecoupé. Enfin, c'est vrai que l'unité qui peut avoir dans les points communs entre tous ces textes, c'est un engagement assez radical, assez nouveau, et en même temps des écritures qui font appel à une rêverie, au voyage, qui utilisent des outils qui sont cinématographiques et... Merde, pardon. Et musicaux, et c'est vraiment des textes qui sont vraiment nouveaux et dans leurs références et dans ce qu'elles... Dans ce qu'elle propose, et on les mettra en perspective avec des textes plus classiques, même s'ils sont contemporains aussi, des extraits des lettres luthériennes de Pier Paolo Pasolini et un texte de Jean-Paul Sartre qui s'appelle Érostrate, et voilà qui ponctueront toute la journée. C'est une journée marathon. On va essayer de faire entendre au maximum ces textes-là parce que le but, ça serait vraiment qu'ils puissent trouver. C'est presque une journée qui devrait s'adresser à des metteurs en scène, en fait, que les metteurs en scène viennent, entendent et donnent les moyens entiers pour que et la puissance de feu d'une production théâtrale pour les monter. effectivement, il s'agit pas juste de les faire entendre, de dire ok c'est pas mal, ils écrivent bien et qu'on s'en débarrasse, parce que là il y a vraiment quelque chose d'essentiel qui se dit dans tous les textes, que ce soit le phare de Timothée de Fombelle ou Anissa, il y a vraiment quelque chose de qui est vraiment de l'ordre de la force vive et quelque chose de viscéral qui se dit avec une construction théâtrale et linguistique vraiment qui est vraiment de la matière théâtrale. Donc ça s'adresse vraiment au metteur en scène. On va essayer de vraiment juste les faire entendre de façon la plus limpide, la plus lumineuse, la plus simple possible, et de pas imprimer déjà d'axes de mise en scène pour que tout reste à faire, quoi. C'est un point de départ très fort, et c'est des textes à dont il faut vraiment s'emparer.
Jean-Michel Ribes, vous vouliez intervenir sur ce...
Oui, non, je veux dire que ce que dit Thierry, sur deux choses, ce que dit Thierry est fondamental. Tous les jours, on rencontre des gens, des metteurs en scène, La Cascade encore hier, qui me le disait, ou des acteurs connus ou moins connus, et qui nous disent, qui ont été, quand même, il faut le savoir, totalement coupés pendant des années de la notion même de ce qui pouvait s'écrire aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout la volonté, comme on peut le penser, de ne pas aller vers un théâtre d'aujourd'hui ou vers des témoins de notre temps ou du monde de la poétique d'aujourd'hui. C'est simplement qu'il y a eu un fossé qui fait qu'il n'y a plus de passerelle pour aller voir ce qui se passe là. Et je pense que le travail justement de France Culture, dans sa possibilité à faire résonner des textes qui tout d'un coup peuvent nous apercevoir. Je veux dire que l'école des femmes, c'est bien, au bout de 7 fois, ça va peut-être assez, donc on peut peut-être écouter autre chose, et c'est ça qui est bien. Je voudrais dire aussi que, par rapport à ce que j'entendais en arrivant sur l'engagement et le désengagement de France Culture, je trouve que l'action de l'or depuis quelques temps est vraiment une action qui est très pointue pour faire justement résonner et dire. Je me souviens l'année dernière à la Chartreuse, il y a quand même eu 2 ou 3 jours de débat sur ce qui se passe aujourd'hui, et cette tentative de reconnecter les gens qui font du théâtre. On sait bien que la fabrique de théâtre ne se fait pas qu'avec des auteurs, évidemment, mais de retrouver l'énergie des metteurs en scène qui mettent leur génie à illuminer le patrimoine, que ce génie soit retourné vers des gens d'aujourd'hui. Et à partir du moment où on leur montre qu'il y a des choses, il y a un centre de ressources, je pense que ça peut remettre en marche ça. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Thierry. Et aussi par rapport, je trouve... je veux dire, c'est évidemment l'expérience qu'on fait au rond-point, dans une audace joyeuse, ouverte. D'ailleurs, il y aura France Culture, parce que il y aura un samedi par mois ou une émission en direct du rond-point qui retransmettra devant des spectateurs qui seront là une pièce, un débat après. Je pense que toutes ces initiatives sont là pour montrer que simplement, il y a beaucoup plus qu'on ne croit des gens qui parlent du monde d'aujourd'hui et de leur monde à eux, et qu'il ne faut pas tout simplement priver ni les metteurs en scène qui auront envie de se tourner vers ça, ni surtout le public qui est, je trouve, beaucoup plus curieux qu'on ne pense des auteurs d'aujourd'hui.
Alors comment s'organise justement ce centre de ressources dont vous parlez, Laure Adler? Comment les textes ont été choisis? Est-ce que c'est avec Bernard Comment?
Alors je crois qu'il faut rendre hommage à la SACD, à la Fondation Beaumarchais, et puis à tous ces centres dramatiques nationaux avec qui nous travaillons tout au long de l'année, car à Avignon, France Culture va montrer la face immergée d'un travail qui se fait au quotidien. Je rappelle qu'il y a pratiquement 7 heures de fiction par semaine sur France Culture, que France Culture est le plus gros employeur de comédiens en France, plus que l'Odéon et la Comédie Française réunis avec chacune de leurs 3 salles, et que donc c'est un vaste domaine qui doit être sans arrêt revisité par la passion, l'enthousiasme, l'ardeur. Et ces 3-là sont bien au rendez-vous, comme l'a dit Jean-Michel. Moi, j'ai vu depuis 4 ans des auteurs de théâtre nous envoyer des textes, soit qu'on leur demande, car je vais laisser la parole à Bernard Comment, qui dirige la fiction à France Culture et qui a fait un véritable travail de découverte en demandant à des auteurs qu'on aimait ou qu'on aime d'écrire pour France Culture des textes contemporains. Mais aussi, il faut savoir qu'à France Culture, il y a un bureau de lecture qui est inondé de milliers de projets qui sont tous examinés, qui a un désir de la part des gens d'écrire du théâtre. Et pourquoi écrire du théâtre? Parce que le théâtre, c'est des corps qui disent la vérité et qui disent la vérité face à d'autres corps, et c'est des âmes qui sont en résonance les unes avec les autres. Le théâtre, c'est vivant. Le théâtre, c'est essentiel. Le théâtre, c'est fait pour dire le monde d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est très beau d'aller réécouter Tchekhov, Shakespeare, etc., qui font partie de notre ciel étoilé à l'intérieur de nous-mêmes. Mais je veux dire que moi, je fais partie, et il le sait, Jean-Michel, de tous ces gens qui aujourd'hui se réveillent. On se réveille. On se réveille d'une torpeur et d'une absence de croyance en l'écriture contemporaine de théâtre. Ils sont là, les auteurs. Maintenant, nous, modestement, on essaye de leur donner la parole avec des équipes techniques absolument magnifiques qui savent faire travailler les comédiens avec la tessiture de leur voix, avec des réalisateurs absolument exceptionnels qui sont très soucieux du texte et des comédiens et qui font passer par leur écriture radiophonique grâce à la réalisation pour nos auditeurs des émotions aussi par le biais de la radio, mais aussi, effectivement, nous avons cette possibilité de faire connaître, comme l'a dit tout à l'heure Thierry, faire connaître pour pas grand-chose, disons les choses vulgairement, c'est-à-dire que ce que nous allons faire à Avignon, ça coûte rien, c'est des mises en espace et c'est de la transmission de savoir et de désir vers les spectateurs, et j'espère, comme Thierry l'a dit tout à l'heure, qu'il y aura dans la salle des metteurs en scène qui auront envie de s'emparer d'un ou deux textes et que ainsi France Culture continue ce chemin de tête chercheuse qui ensuite trouvera d'autres producteurs et des publics plus larges. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'effectivement à l'intérieur de ce dispositif de la radio, nous pouvons, une mise en scène ça coûte très cher, très très cher. Nous, c'est le texte, ça coûte pas cher de faire écouter un texte. C'est ce qu'on appelle la mise en espace que Lucien Hatoun avait inaugurée il y a longtemps maintenant au Festival d'Avignon. C'est notre devoir et notre rôle. Et c'est vrai que notre rôle de passeur est essentiel aujourd'hui par rapport à un théâtre contemporain et à des centres dramatiques nationaux qui ont un peu trop peur, je trouve. Et j'appuie complètement les positions de Jean-Michel Ribes, qui ont un peu trop peur. Ils pensent que le théâtre contemporain n'intéresse pas les spectateurs. Eh bien, c'est le contraire. En tout cas, c'est le pari que fait France Culture.
Donc, en espérant qu'il y ait des metteurs en scène le 12 juillet, mais il y aura aussi du public, puisque l'émission est enregistrée et sera diffusée dans le courant de l'automne, dans le cadre de Surpris par la nuit. Deuxième journée de France Culture, donc samedi 13 juillet, avec ce cycle de metteurs en scène européens consacré à Claude Régis. Est-ce qu'il faut penser ces deux journées comme un diptyque? D'un côté, les auteurs contemporains que vous découvrez d'une certaine manière, et de l'autre côté, un hommage à un metteur en scène qui a fait beaucoup aussi pour découvrir des auteurs contemporains.
Oui, on peut imaginer cela comme un diptyque. On peut surtout, je crois, et je rejoindrai là aussi le combat que mène Jean-Michel Ribes, je crois aussi qu'on vit dans une France beaucoup trop hexagonale. Je pense que les écritures contemporaines, qu'elles soient de fiction, de théâtre ou cinématographiques, sont européennes désormais. Et en tout cas, là aussi, France Culture a un devoir de faire souffler le vent de l'Europe, pas seulement une Europe économique, pas seulement une Europe qui se cherche dans des sommets assez ennuyeux, mais une Europe culturelle qui existe bel et bien. Donc on voulait faire coïncider les deux. Le fait qu'il y ait des metteurs en scène qui considèrent que l'Europe est un territoire d'imaginaire et d'émotion, et Dieu sait que Claude Régis, depuis très longtemps, a essayé de puiser dans des textes de différentes origines, hein, qu'elles soient anglaises, irlandaises, etc., et qui considèrent que l'Europe, c'est une Europe de création. Et donc, c'était l'idée de faire souffler ce vent-là, à la fois de la création contemporaine et de l'Europe créatrice, et c'est un vent qui d'ailleurs soufflera sur la nouvelle grille de France Culture. L'Europe, nous y sommes, et l'Europe sensuelle, l'Europe du désir, l'Europe de la création, l'Europe de l'effervescence, elle existe bel et bien.
Claude Régis vient participer à ce cycle de France Culture, où il vient au Festival d'Avignon, lui qui disait l'an dernier dans Libération, il faut supprimer Avignon.
Il vient à l'invitation de France Culture au Festival d'Avignon. J'en avais bien prévenu, évidemment, Bernard, en lui disant que j'avais fait l'invitation à Claude. Et Bernard m'a dit que c'était une magnifique idée, qu'il se sentirait très honoré si Claude Régis acceptait l'invitation. Et je pense que, d'après ce que m'a dit Bernard, que Bernard viendra assister à la journée. Et si on peut, modestement, dans les coulisses, faire des retrouvailles... Je crois que Bernard admire beaucoup le travail de Claude Régis et que Claude Régis admire beaucoup le travail de Bernard Fèvre-Darcier. Donc voilà, je pense que ça sera des retrouvailles pour eux deux et on en sera très très contents.
Alors là aussi, les débats, les conversations, je ne sais pas comment les appeler, entre Claude Régis, des comédiens, des scientifiques, Michel Cassé et d'autres metteurs en scène seront enregistrés et diffusés, mais là beaucoup plus tôt, les 15, 16 et 17 juillet, c'est ça, dans Surpris par la nuit. Merci beaucoup.